Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
Mon Dieu!
Qu'est-ce que tu préfères, le Jedi ou l'Empire contre-attaque?
L'Empire.
Blasphème.
Le monde se divise en deux catégories.
Bah c'est quoi, un gigawatt?
Cinéma! Cinéma!
Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout.
Les géants américains de l'Internet ont beau nier à l'unisson, le scandale prend de l'ampleur.
Ok, c'est bon, t'as réussi ton jeté de dé, donc maintenant tu peux jeter ton dé.
Allons-y, finissons-en!
Ouais, mais au moins, il faut que je sois au lit à 9h30.
Toi, tu creuses.
Bonjour à tous, je suis Damien, vous êtes à l'écoute de L'Œil Carnivore et aujourd'hui je vous propose de rencontrer Gauthier Van Merbeek. Bonjour Gauthier.
Bonjour.
Tu es directeur éditorial du Lombard et surtout, et c'est pour ça qu'on t'invite aujourd'hui dans L'Œil Carnivore, papa du numéro spécial du journal de Tintin sorti en septembre.
C'est bien ça.
Voilà, alors c'est vraiment le papa et vous allez vous comprendre pourquoi. On va essayer de vous raconter un peu toute l'histoire qui est derrière ce numéro spécial qui est pour moi un petit bijou. Donc j'espère qu'à la fin vous courrez aller acheter le Tintin parce que je ne sais pas combien de temps il sera disponible. Mais en tout cas, franchement moi c'est un vrai coup de cœur. Donc voilà, et je dis ça pas juste parce que Gauthier est à côté de moi, mais
j'en suis sûr.
C'est vraiment, on va vous faire découvrir l'histoire, on va vous faire découvrir ce qu'il y a dedans. Et puis, on va en savoir un peu plus sur les dessous aussi de comment on produit un magazine comme ça. Je pense que c'est pas simple. Alors, c'est un numéro spécial à plus d'un titre, car les éditions du Lombard fêtent leur 77 ans.
Exactement.
C'est ça. C'est marrant parce que c'est exactement le slogan du journal de Tintin, qui était le journal pour les jeunes de 7 à 77 ans. Donc, je suppose que voilà, l'anniversaire t'a ciblé le moment. Il fait 400 pages, donc c'est pas exactement le même format qu'à l'époque. Quand même, 400 pages, c'est pas la même chose. Et surtout, il rassemble plus de 80 autrices et auteurs qui ont rendu hommage en fait aux différents héros qui ont traversé l'histoire du journal de Tintin, et aussi tous les imaginaires et tous les rêves des enfants. Alors, c'est de quelle époque à quelle époque? Ça a commencé quand?
Alors ça a commencé en 1946, en septembre, et en fait le premier numéro a été également la première publication du Lombard. Donc
oui.
En fait on célèbre notre anniversaire en même temps que celui du journal Tintin, ça c'est concomitant. Et ça s'est arrêté en 88.
En 88, ouais. Donc là, voilà, c'est vraiment, il y a un gap et c'est quand même un petit miracle de réussir à ressortir une version du journal de Tintin, surtout quand on sait que toucher à l'image de Tintin, c'est compliqué. On va dire ça comme ça, mais c'est pas simple parce que, pour plein de raisons. Et je tenais particulièrement à t'inviter, Gauthier, parce que la première fois, alors, pour nos auditeurs ou téléspectateurs qui sont derrière leur écran ou leur casque, on se connaît depuis à peu près 7 ans maintenant. Et la première fois, donc c'est pour ça que je te tutoie, ça
ne
sert à rien de vous voyer pour rien. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés, pas la première fois, mais une des premières discussions qu'on a eues, tu m'as parlé de ta volonté de refaire un journal de Tintin. Et donc ça, il y a 7 ans, et 7 ans plus tard, ça y est, enfin, tu sors ce journal. Donc je me suis bien rendu compte que c'était vraiment quelque chose que tu as porté, c'est pas un travail... on va dire opportuniste, c'est les 77 ans, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on pourrait ressortir un journal de Tintin. Non, on n'est pas du tout dans cette histoire-là. On est vraiment dans l'histoire, et c'est ça qu'on va essayer de vous raconter. L'histoire d'un éditeur qui, étant gamin, arrivé avec le journal de Tintin, et depuis qu'il est arrivé au Lombard, se dit, ah, ça serait trop chouette de refaire ça. Alors, ça y est, le gros bébé, il est là. Le beau et gros bébé est là. On va revenir sur cette histoire, comment d'un rêve de gosse, on arrive à en faire un produit d'édition et on arrive à quand même le produire. Le micmac que ça doit être au niveau des droits d'auteur parce que ça doit être une horreur intersidérale. Le travail avec les artistes, pareil, parce que 80 artistes, ça doit pas être simple à gérer. Et au final, comment aussi on produit un journal de 400 pages, quelles sont les contraintes, comment on arrive à faire ce genre de choses. Voilà, moi c'est un peu le plan de l'interview, un peu ce dont j'avais envie de parler avec toi. Et je commence, donc j'ai commencé déjà, mais je commence à donner mon avis. C'est vraiment un très beau boulot. On va rentrer dans les détails après, mais c'est vraiment, si vous ne l'avez pas déjà ouvert, allez en librairie. Essayez d'aller en librairie et pas sur Amazon ou autre, parce que c'est quand même mieux de faire vivre les gens qui vivent et qui aiment les bouquins. Et la plupart des libraires adorent les bouquins, donc essayez de les faire vivre. Et moi, ce que je trouve génial là-dedans, c'est qu'il y a plein de trésors cachés. Au début, on se dit « Ok, ça va être un truc dommage et peut-être les auteurs vont tirer un peu à la ligne, etc. » Et en fait, on découvre leur amour pour ces personnages et on découvre des choses merveilleuses qui sont cachées à l'intérieur. Donc, voilà. Mais, comme tu as dit au début, les éditions du Lombard et le journal de Tintin, en fait, c'est extrêmement lié. D'après ce que j'ai compris, donc c'est le journal de Tintin. Bah, les éditions du Lombard sont créées pour faire le journal de Tintin, c'est ça ? Donc c'est quoi l'histoire de le tout début ?
C'est exactement ça. Donc c'est l'histoire d'un jeune entrepreneur qui s'appelle, en tout cas à l'époque, Raymond Leblanc, qui à la fin de la guerre a cette intuition de se dire « la jeunesse a besoin de distraction, peut-être qu'il n'y en a pas encore assez dans ce qui est proposé aujourd'hui en librairie ». Donc il crée, en se rapprochant de Hergé, ce magazine. Et tout à coup, il confie à Hergé une tâche qu'il n'avait jamais vraiment pratiquée avant, d'être rédacteur en chef. Donc plutôt que d'être un artiste qui produit seul ses BD magnifiquement, il devient une sorte de chef d'équipe qui va réunir un groupe de 3 auteurs autour de lui, qui sont Jacques Laudy, Edgar P. Jacobs et Paul Cuvelier, qui vont créer leur personnage dans ce premier numéro du magazine, qui est aussi la première publication donc, du Lombard.
D'accord. Et Jacobs, c'est là-dedans qu'il crée Black et Mortimer, par exemple ?
Donc ce jour-là, paraît pour la première fois pour les lecteurs, c'est la création également de Black et Mortimer, qui fête son anniversaire en fait en même temps. Tout comme
et
d'ailleurs
Cuvelier,
Corentin.
Cuvelier, c'est Cubitus, non ?
C'est Corentin.
Ah, c'est Corentin, c'est pas, je confonds avec un autre.
Et alors, Jacques Claudie, c'est moins connu, c'est Hassan et Kadour, mais tous ces héros-là apparaissent pour la première fois ce jour-là dans ce premier numéro de quelques pages qui va créer, lancer l'histoire du journal.
Donc, ouais, c'est vraiment, c'est un début, c'est toute une histoire, parce que c'est le précurseur quelque part de ce style aussi de magazine pour enfants. Ou alors il y avait déjà quelque chose qui existait avant.
Il y avait déjà Spirou.
Spirou existait déjà.
Spirou existait déjà, était plus ancien.
Le frère ennemi.
Le frère ennemi, c'était un peu ça au fond, parce que ça a été vraiment les deux magazines concurrents sur le même marché avec la même proposition. Elles ont donc dû assez vite se démarquer l'une l'autre. On a beaucoup dit qu'il y avait l'école de Marcinelle dans Spirou, le côté plus humoristique, on appelle ça un peu grené pour caricaturer. Là où Tintin avait un angle un peu plus réaliste, plus aventure, plus héros. C'est ce qu'on peut différencier entre les deux. Mais les deux proposaient des bandes dessinées à suivre les jeunes lecteurs et donc ont été très vite des grands concurrents.
Et toi, ton lien avec le journal de Tintin, c'est quoi ? Est-ce que tu étais lecteur quand tu étais petit ?
Oui, alors on va rester dans des dates symboliques. Moi, c'est quand j'ai eu 7 ans que mes parents m'ont proposé de m'abonner. Ils m'ont dit « on t'offre un Spirou ou un Tintin, choisis lequel tu seras abonné ». Et donc, c'est là que j'ai dû très vite choisir mon camp, dès l'âge de 7 ans, et j'ai choisi Tintin. Et donc, j'étais abonné à Tintin jusqu'à la fin, jusqu'à mes 13-14 ans, où ça s'est interrompu. Et ça a été pour moi un vrai deuil, vraiment une espèce de rupture, parce que chaque semaine, j'étais accompagné, ça m'avait appris à lire, ça m'avait fait une base de ma culture.
C'est vrai que de 7 à 14 ans, c'est quand même 7 ans, la moitié de sa vie.
Ans,
c'est...
Et tout à coup, ça s'interrompait, et c'était quelque chose d'incompréhensible pour moi. Et puis, donc, quand j'ai eu la chance de travailler au Lombard ensuite, je me suis dit, un jour ou l'autre, peut-être que j'arriverai à faire cet hommage et à faire
et
ce retour.
Et ça s'est arrêté parce que trop cher, parce que...
C'était une conjonction de facteurs. Les ventes étaient devenues peut-être un peu moins bonnes, mais ça restait quand même une marque, on peut le dire, assez puissante.
Et en 85, la presse continue à tirer.
Oui, oui, ça continue vraiment à bien fonctionner. Il y a eu aussi le décès de Hergé, au fond, qui a amené une nouvelle gestion de ses ayants droit et un nouveau point de vue qui se défend d'ailleurs assez bien aussi, hein, qui était de se dire maintenant... On s'est un peu éparpillé, on a du Tintin, du Hergé un peu partout. On va reprendre la gestion globale et donc notamment enlever au Lombard le droit de faire le journal Tintin. Mmh. Le Lombard a cru qu'il était assez fort pour continuer seul avec juste ses héros, ses prépubs. Donc il a créé le journal LOBD qui a suivi, qui n'a pas du tout eu le même succès. Et donc ça a duré 2-3 ans et ça s'est arrêté. Tintin était en fait important dans l'équation.
D'accord, ouais. donc compliment. Et toi, pendant toutes ces années, ton ou tes héros favoris, c'était quoi ? C'est quoi le à suivre que t'attendais ?
Ouais, alors ça c'est personnel, mais la série qui m'a le plus marqué, que je trouve qui est d'ailleurs pas du tout vieillie, c'est la série Comanche, qui était le western de Herman et Greg, que j'ai toujours trouvé moi très adulte, sans jamais être glauque ou déprimant. C'était en fait très moderne et ça l'est étonnamment resté. Les 10 premiers comment, c'est une série vraiment intemporelle. Il y en a eu plein d'autres, hein, Torgal, Ricochet, moi j'adorais aussi. C'était vraiment mes héros de jeunesse.
Et ça a commencé quand? Alors, on l'a vu, c'est quelque chose qui te travaillait depuis des années, mais ça a commencé réellement quand? À un moment, tu t'es dit, ok, c'est possible, on peut le faire, voilà le plan. C'était quoi alors il faut à mon avis plusieurs années pour réussir à faire un truc pareil, mais c'est quoi, c'est un an, deux ans, trois ans, quatre ans
Mais c'est même presque sept ans, parce que ça s'est fait finalement en deux temps. On a célébré donc il y a sept ans nos 70 ans, c'était aussi un bon prétexte, et donc ça a été un bon prétexte pour aller rencontrer les gens de Moulinsart, et notamment Nick Rodwell qui dirige l'édition Moulinsart, pour leur dire est-ce qu'on ferait pas un recueil des meilleures histoires courtes du journal Tintin. Donc des choses déjà éditées, mais seulement dans le journal. Et donc on a fait un livre de 777 pages. On aime bien les symboliques chiffrées, hein, ça nous passera, mais là ça tombait bien, il y a 7 ans. Et donc c'était une sorte de très gros recueil qu'on a fait en coédition avec Moulinsart. Ça s'est passé très très bien. Ils ont pour la première fois accepté que Tintin soit édité avec d'autres et repédé dans une même publication. Mais c'était la réédition. 7 ans plus tard, on s'est dit, là on voudrait faire quelque chose d'autre, de la création totalement inédite. C'était vraiment une autre ampleur, un autre type de projet. Et sans doute que le fait que ça soit bien passé 7 ans avant a fait qu'ils ont accepté de l'accompagner à nouveau dans ce défi-là qui était beaucoup plus périlleux et beaucoup plus complexe.
J'imagine. Mais alors concrètement, tu as commencé à bosser de manière régulière dessus. Combien de temps ça fait
peut-être un an et demi entre les premières réunions avec Moulinsart pour les convaincre d'être nous suivre avec enthousiasme aussi. Et puis, ensuite, le choix des auteurs, des projets, ça a dû être un peu structuré en amont pour qu'on ne fasse pas dans tous les sens. Donc, on a fait ça ensuite par strat.
D'accord. Et OK, donc, il y a un an et demi, tu te dis OK. Tu as le OK de Moulinsart
On a le OK de Moulinsart. J'arrivais à une réunion avec beaucoup d'arguments, un dossier, une réflexion financière, commerciale. Au fond, j'ai proposé l'idée. Et Nick Rodwell a décidé directement de dire oui. Il ne s'est pas du tout intéressé à l'aspect chiffré, à l'aspect technique. Il s'est dit, en fait, je sens qu'il y a de l'enthousiasme là-dedans, ça m'amuse, allez-y. Donc ça a été vraiment très rapide, c'était très stimulant ça.
Ça, j'imagine.
Et donc la première étape, au fond, a été vraiment assez facile. La seconde, ça a été de se dire avec qui on travaille et sur quel personnage on travaille, sachant qu'on était assez libre au niveau de Moulinsart. Eux faisaient un contenu très lié à Hergé, inédit dans le journal. Le reste, c'était évidemment les personnages du Lombard. Et donc la première chose à faire pour moi, ça a été d'appeler d'abord les auteurs de l'époque, ceux qui dessinent toujours.
Oui, ou les ayants droit, puisque il y en a un certain nombre qui nous ont quittés aussi.
Ensuite, évidemment, ça a été les ayants droit. Mais on avait la chance d'avoir encore quelques auteurs et autrices du journal qui étaient partants pour reprendre leur héros ou pour faire un hommage à d'autres. Et donc on a d'abord, évidemment, demandé à Cosset, Herman, Derib, Dany, tous ceux qui étaient vraiment là au moment et qui sont toujours de très bons auteurs. Ça a été les premiers qui ont pu vraiment choisir ce qu'ils voulaient faire.
Oui, parce que c'était vraiment une question que j'avais. Alors, on parlera des auteurs et de ce qu'ils ont fait un petit peu après, mais c'était vraiment une des questions. Est-ce que, en gros, ils pouvaient dire oui, moi, je veux prendre ce personnage, ou est-ce qu'il y avait une liste dans laquelle ils avaient un choix qui était de plus en plus restreint, les premiers servis, les premiers arrivés, les premiers servis?
Alors, il y a eu un tout petit peu de ça. En fait, les premiers arrivés, c'était vraiment les anciens. Donc, c'était vraiment à eux le premier choix. Et beaucoup ont finalement voulu faire une sorte d'épilogue de leur personnage. Et donc, ont repris leur propre personnage. Mais pas tous. Dany, il a voulu faire un hommage à son meilleur ami décédé, Tibet, en faisant une histoire super chouette de Ricochet. Ah,
qui est très, très bonne. D'ailleurs, on va parler des auteurs.
Pourquoi pas.
Ils sont mélangeant tout. Mais j'avais une vraie question. Alors, effectivement, l'histoire que fait Dany est assez rigolote parce que, en gros, il reprend, il dessine une scène de Ricochet, et là, il y a l'édition du Lombard qui lui téléphone et qui lui dit « Mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, ça a déjà été fait dans tel et tel album. » Et c'est une sorte de running gag pendant toute la petite histoire, où à chaque fois, il refait une scène, et l'idée derrière, c'est « Bah oui, c'est tellement riche que tout a déjà été fait avec Ricochet. »
Ça, c'était vraiment un vrai hommage, mais humoristique, fait avec son talent à lui.
Voilà, mais est-ce qu'il y a eu, alors sans doute pas de la manière dont il le décrit, mais est-ce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours avec les auteurs? Est-ce qu'il y a des moments où, non, ça, c'est pas possible de faire ça avec ce personnage? Ou, est-ce que, est-ce qu'il, est-ce que les auteurs soumettaient leur idée avant de la faire? Comment ça se passait?
Au fond, il y a eu assez peu d'allers-retours dans le sens où il y a eu assez peu de demandes de correction, si on peut appeler ça comme ça, ou de censure de notre part. Presque pas. La définition de départ de ce qu'on demandait aux auteurs, c'était un hommage à un personnage du journal Tintin. On avait une très longue liste parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a les célèbres, mais il y en a aussi plein d'autres, parfois un petit peu oubliés.
Et d'ailleurs, il y en a qui ne sont pas repris, mais qui sont cités à la fin du livre quand même en disant « Voilà, tous ces personnages ont fait partie de l'histoire de Tintin ».
On savait qu'on ne pourra pas être exhaustif. Ça, c'était un petit peu un deuil à faire aussi. On ne pourrait pas rendre hommage à tout le monde. L'idée de départ, c'est qu'on voulait vraiment des auteurs d'abord du Lombard, des gens qu'on connaissait, avec qui on aimait travailler. C'était un des premiers critères, qui soient vraiment inspirés. Que ce soit pas un travail de commande, de mercenaire. Donc il fallait qu'ils puissent choisir leur sujet. Il fallait que vraiment ça les porte. On a défini les choses en disant, voilà, on voudrait une histoire courte, complète, ce ne sera pas à suivre, il n'y aura pas un nouveau numéro le mois suivant, donc ça doit être vraiment abouti.
Il y a une exception à ça.
Un hommage, il y a une exception à ça, c'est Jean Van Damme qui est permis.
On en reparlera après.
Donc un hommage qui peut être une parodie, ça ne doit pas être spécialement une redite d'un classicisme absolu. Ça ne peut par contre pas être moqueur, ça ne peut pas être narquois. Quand on fait un hommage à un personnage ancien des 60, 70, on peut facilement trouver un angle un peu daté, un peu moqueur. Ça, ce n'était pas ce qu'on voulait. Donc de l'humour, oui, de la parodie, oui, mais de la parodie qui soit sincère, qui soit un vrai hommage. Il y a eu, sur les 400 pages qu'on a reçues, un gag où on a dit, écoute, là, le ton n'est pas tout à fait le bon. Là, on est un peu dans le sarcasme, ce n'est pas ça l'idée. Mais un seul. Tous les autres avaient parfaitement compris qu'ils voulaient vraiment mettre en avant le travail de ceux à qui ils rendaient hommage.
Et mais alors, c'est rigolo parce que tu parlais effectivement d'auteurs du Lombard, mais il n'y a pas que des auteurs du Lombard.
Non.
Et comment ça se travaille? Alors, c'est là où, à mon avis, ça lui est un travail d'éditeur assez énorme. C'est que non seulement c'est des personnages... Alors, tous les personnages appartenaient au Lombard encore? Ou est-ce que c'était... Parce que déjà, Black et Mortimer, c'est pas le cas. Tintin, c'est pas le cas. Bon, il n'y a pas une histoire de Tintin.
Non.
C'était le truc intouchable, je suppose, mais il n'y avait pas d'histoire de Tintin. Il y a quand même... Je crois que les héros les plus représentés, c'est Black et Mortimer. En tout cas, par des auteurs différents. Il doit y avoir d'autres personnages comme ça qui sont plus dans le giron du Lombard.
Il y en a d'autres, il y a Michel Vaillant, Alix, ils sont tous nés au Lombard dans Tintin, mais pour certains effectivement ils ne sont plus. Il y a eu le jeu éditorial pendant des décennies qui fait que nous on a récupéré des personnages, perdu certains. Donc le critère c'était qu'il fallait que ce soit des héros du journal. Par exemple, aujourd'hui on édite des personnages connus comme les Schtroumpfs ou Léonard, ils n'étaient pas dedans. Pas question qu'il soit dans ce recueil-là. Oui. À l'inverse, on n'est plus éditeur d'Alix ou de Michel Vaillant, il fallait qu'ils y soient, c'est des personnages vraiment majeurs du journal. Donc là, il a fallu demander effectivement la permission à nos petits camarades des maisons d'édition d'en face, qui nous laissent faire effectivement exceptionnellement ce type
de démarche. Ça s'est bien passé parce que ça ne devait pas être évident de prime abord.
C'est pas évident de prime abord. Ça s'est très bien passé. Blake et Mortimer, c'est géré par Dargo.
Vous êtes à peu près au même groupe.
À peu près au même groupe. On est voisins, on s'est très vite entendu. Michel Vaillant, c'est chez Dupuis, idem. Ça appartient au même groupe, ça a été facile. Alix, par contre, c'est chez Casterman, c'est le groupe Gallimard. Là, il a fallu vraiment qu'ils nous fassent confiance et qu'ils nous laissent faire, ce qu'ils ont fait d'ailleurs très gentiment.
En même temps, ce genre de publication... De mon point de vue un peu extérieur, ça fait revivre aussi les personnages. Donc, entre guillemets, c'est pas une publicité, mais les gens vont se dire « Bah tiens, ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas lu Alix, ou ça fait longtemps que j'ai pas lu Black et Mortimer, ou etc. » Et donc, ça fait revivre le catalogue de sortir quelque chose comme ça.
Moi, je crois que ça peut recréer des envies, parfois des personnages qu'on a un petit peu oubliés, d'un petit goût de la nostalgie, donc je crois que ça peut bénéficier à chacun.
J'avais noté toute une série de questions. Au niveau des auteurs, des autrices et des auteurs, alors tu dis au début, il y avait effectivement les anciens, je pense que là, ceux-là, ils étaient tous prêts à repartir. Comment ça se passe quand vous avez élargi? Est-ce que tu avais plus de demandes que de places? Comment ça s'est géré ça? Tout d'un coup, vous avez lancé une petite annonce, ou alors c'est toi? Tu t'es dit, tiens, cette personne, j'aimerais bien l'avoir, ou etc. Comment...
Il y a eu deux niveaux assez clairs. C'était vraiment les auteurs anciens. Ensuite, les auteurs et autrices du Lombard avec qui on travaille actuellement. Pas tous ceux de notre histoire, mais nos collaborateurs et collaboratrices actuelles, on voulait qu'ils puissent avoir leur place. Donc ça, c'est vraiment d'abord adressé à cela. Il y a eu ensuite quelques invités extérieurs. Mmh. Et ça, ça s'est fait un peu au fil des rencontres, parfois des envies, parfois d'amorces de projets avec l'un ou l'autre, on discute, qui ne sont pas concrétisés, mais on se dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas, au fond, une histoire courte d'hommage.
Donc, il y a une dizaine d'invités. Trondheim, il fait partie du Lombard.
Alors, Lewis Trondheim, si, il est scénariste d'une série qui s'appelle Carmela Crime.
Crime au Lombard. Il est partout, de toute façon, lui.
Mais il y en a quelques autres, effectivement. Ouais. Nope qui a fait un scénario, Guillaume Bouzard. Il y a des auteurs comme ça qui ne sont pas encore au Lombard. Mais ça se prêtait bien. Il y a eu une rencontre, une envie commune. Il y a eu aussi un petit peu de hasard pour les quelques invités extérieurs au Lombard.
D'accord. Donc, c'est principalement, effectivement, donc c'était sans doute plus facile de gérer aussi parce que le contact est déjà là. Vous avez déjà l'habitude, entre guillemets, de travailler. Vous avez déjà les contacts humains, en fait, tout simplement.
On a déjà les contacts humains. On savait que pour beaucoup, ce serait quand même vu comme une belle opportunité. Donc, on voulait vraiment laisser la primeur aux gens les plus proches de nous. Et puis, ça ne manque pas d'ailleurs de très bons auteurs, de très bonnes autrices. Ce n'est pas comme si on disait, tiens, on n'est pas suffisant au Lombard. Oui. On n'a pas d'emblée décidé qu'il y aurait des extérieurs, ça s'est un peu fait au fil des rencontres.
Et alors, je sais que c'est difficile parce que toi, tu es un peu au-dessus de la mêlée, tu ne peux pas juger tel ou tel travail, mais c'est quoi est-ce que tu as un ou deux coups de cœur quand même? Genre, quand tu as reçu les histoires, tu t'es dit « Ah ouais, là quand même, c'est chouette ». Je sais que c'est difficile, évidemment, il ne faut pas froisser un tel ou un tel, mais il y avait peut-être une ou deux où tu t'es dit « Waouh, là, la personne a fait fort sur ce coup-là ».
Bon, comme il y en a 80, je pense que je peux en désigner un ou deux sans faire trop de jaloux. J'ai beaucoup aimé la reprise de Bernard Prince par Xavier et Mats, parce que je la trouve très fidèle, très élégante, avec normalement une nuance de trait qui est le sien, mais on sent vraiment une volonté de refaire une grande aventure à l'ancienne, identique. J'ai trouvé ça très, 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 très réussi. Un autre qui m'a un peu bluffé dans notre style, c'est François Bouc, parce qu'on voulait vraiment qu'il soit dedans. Il devait boucler un album du Bouncer qui était vraiment interminable, qui était une lourde tâche. Il n'arrivait pas à se dégager du temps pour. À un moment, on était tout proche du bouclage. J'ai dit, écoute, François, ton histoire, on a besoin vraiment rapidement. Et il m'a dit, ah ben justement, écoute, finalement, j'ai essayé d'en faire 4. Là, je suis en train de boucler la troisième, je t'envoie bientôt une quatrième. Donc, en fait, tout à coup, une semaine avant le bouclage, il nous envoie, au lieu d'une histoire, 4 histoires qu'il fallait réintégrer au chemin de fer. C'est un cadeau, au fond. C'était un peu.
Et puis, c'est très chouette ce qu'il a fait.
C'est chouette ce qu'il a fait.
Alors, le principe, vous verrez, mais en gros, c'est un vendeur d'assurance qui essaye de vendre des assurances aux différents héros du journal de Tintin. Et c'est très drôle, évidemment. Et il y a plein de choses qui arrivent.
Du coup, ça a amené à rendez-vous, une sorte de running gag aussi. Oui, donc,
ça marche très, très bien. Franchement, ouais, non, effectivement, c'est un beau cadeau. Je comprends. Je comprends. Moi, il y a l'histoire de Modeste et Pompon est repris par Alice Gardin. Garin, pas Gardin. qui est vraiment une histoire touchante. Et je pense que, quelque part, c'est un peu aussi ce qui est en filigrane dans cette édition du Journal de Tintin, parce que, en gros, le principe, c'est l'auteur qui vient rendre visite à ces personnages qu'il ne dessine plus. Et donc, il rend visite, physiquement d'ailleurs, il rentre chez Modeste et Pompon, Pompon est à la maison, Modeste est parti travailler, je crois, un truc dans le genre
là. Travail alors qu'il ne travaillait pas, voilà. Quelque chose de triste. Là,
et voilà, et c'est extrêmement bien dessiné, c'est touchant, ça marche très très bien. Moi, ça m'a vraiment touché, ce petit moment de poésie comme ça, tac tac tac.
C'était vraiment la nostalgie poétique. C'est un peu hasardeux de confronter tout à coup un créateur à ses personnages. Et je pense qu'elle a trouvé vraiment le ton juste.
Et qui doit toucher finalement pas mal d'auteurs qui ont eu plusieurs personnages dans leur vie. Où effectivement, quand tu vis, je ne sais pas moi, 5, 6, 10 ans avec un personnage que tu laisses de côté parce que tu racontes une autre histoire, etc., tu dois avoir, faudrait discuter avec des auteurs, mais tu dois avoir de temps en temps envie de reprendre ou simplement de leur dessiner ou de le faire revivre, parce que quelque part c'est donner vie quand tu dessines.
Te sentir un petit peu infidèle, déloyal, on les a abandonnés, ils n'existeront plus. Et c'est ça que cette histoire raconte, elle est un peu douce amère de ce point de vue-là, parce que Pompon en veut un peu à Franquin de ne pas avoir poursuivi ses aventures. Elle n'est pas désagréable, mais on sent qu'il y a quand même un petit moment de flottement, et c'est ça qui, je trouve, qui fait que c'est intéressant en effet.
Non, c'est une chouette histoire. Alors, j'ai bien aimé aussi, on l'a abordé tout à l'heure et c'était intéressant, le Blake et Mortimer de Van Ham. Alors, il n'y a pas seulement Van Damme, hein, il y a aussi. Alors, moi, je suis nul au niveau des noms, mais Toon Berserik,
c'est un des dessinateurs officiels de la série actuellement.
Au dessin, d'ailleurs, qui est très proche de l'original. Et Paula Knocker, comment tu prononces Knocker Knocker Noteur
Toon Berserik, non, tu parles de.
Non, de celle qui a fait la couleur. C'est Paula.
Ah, c'est son épouse. Alors là, franchement.
Paula Knocker, ou alors Knocker, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé. Alors, on va spoiler, désolé pour ceux qui n'ont pas lu, mais qui laisse un à suivre. Et pareil, c'est très symptomatique du journal de Tintin, parce que tous ceux qui ont été abonnés à des journaux de ce style-là, bah, on attendait la suite. Et à chaque fois, il y avait un à suivre. Et à chaque fois, c'était quand est-ce qu'arrive le prochain numéro pour avoir la suite ? Ça rompt le contrat de départ, mais quelque part, ça le rappelle tellement. D'arrêter en plein milieu de l'histoire et de se dire « Ah, c'est quand la suite ? C'est quand... »
Ah non, mais il y avait une instruction claire, c'était « ça doit se terminer. » Jean Van Damme, il me dit « Mais volontiers, je t'en fais une. » Et puis, c'est ce qui s'est dit. Je lui dis « Moi, je trouve que sympa qu'il y en ait au moins une qui soit à suivre. » Elle n'aura jamais de suite, mais on va faire un début plein de suspense, passionnant, qu'une sorte de pied de nez ou d'exercice de style. Et comme ça, Jean Van Damme, évidemment, en fait, on dit oui. Et en plus, après, on est content parce que c'est amusant. Comme
Ah bah, c'est bien fait. C'est bien fait. Et c'est pas gênant. C'est pas gênant parce que l'histoire reprend tous les codes de Black et Mortimer, etc. Donc, on est en terrain connu. Donc, il y a un côté frustrant de se dire oui, alors d'accord, mais vers quoi ça débouche? Et en même temps, ça peut déboucher sur tellement d'histoires différentes. À nous de projeter l'histoire qu'on a envie de faire de la suite. Mais alors, ça pose une question. Parce que ce à suivre, est-ce que tu crois possible d'un deuxième numéro spécial comme ça ou c'est no way parce que voilà, là il y avait la concordance des astres, l'alignement des planètes, etc. Mais que c'est un tel travail et c'est tellement compliqué que ça se refera pas. Je n'enterre pas forcément, mais en tout cas, est-ce que c'est complètement fermé ou est-ce qu'il y a une possibilité
à court terme, ça l'est, mais en fait, pour ces deux raisons-là, et les deux sont importantes, effectivement, c'est des tâches assez vastes pour l'équipe éditoriale qui doit le gérer, mais aussi pour les auteurs et les autrices, parce que certains en fait, ont des plannings, des albums à rendre, des séries à suivre. Quand on les détourne comme ça, de faire 6-8 pages en couleur, parfois ça prend 2 mois de boulot en plus, et ça peut vraiment chambouler un planning. Ce n'est pas comme si c'était si simple que ça, même pour les artistes. Et par ailleurs, moi, je crois beaucoup au fait d'avoir... si pas un prétexte, en tout cas une occasion, quelque chose qui le justifie. Je trouve que ça ne peut pas être gratuit, purement commercial. Je pense que symboliquement, c'est important qu'il y ait un moment, qu'il y ait un momentum autour. Et on a choisi de faire les 77 ans. C'est une sorte de gag, mais qui pour moi a beaucoup de sens aussi symboliquement. Donc pas les 75, ni les 80, on fait juste les 77. Donc peut-être que pour les 90 ans, on se relancera là-dedans, mais on doit un peu assumer notre démarche d'avoir en fait fait un super anniversaire qui regroupe deux dates symboliques importantes.
Oui, et puis sans doute que la qualité qu'on a là-dedans, c'est parce que justement, c'est un moment unique où les auteurs se sont dit « Ah bah, Black et Mortimer, je ne pourrais jamais le reprendre » ou je ne sais pas, Modeste et Pompon, ou etc. Donc là, tout d'un coup, ils ont fait ressurgir quelque part des héros qui les ont travaillés, qui les ont inspirés. Si on leur demandait de faire ça tout le temps, je pense qu'il n'y aurait pas la même énergie et pas le même...
Exactement.
Pas la même qualité, tout simplement.
Le fait que ce soit exceptionnel, ça génère effectivement tout d'un coup une impulsion, une pression, une inspiration qui n'aurait pas, si c'était régulier, c'est sûr.
Là on va essayer de parler un petit peu du côté production même, de travail d'édition. Donc là, ok, on a un journal de Tintin, un journal un peu spécial puisqu'il fait 400 pages. Comment ça se produit un truc pareil? Parce que ça... Alors, on sait en plus qu'il y a eu la crise du bois et du papier. Se dire je vais relancer un truc qui fait 400 pages dans un prix qui est quand même contenu puisque c'est 30 €, je crois, c'est ça?
C'est ça.
Parce que c'est pareil, ça c'est un casse-tête d'éditeur, comment on fait rentrer dans un prix correct tout, c'est-à-dire effectivement les histoires de droits, de payer tout le monde, de l'éditer, de le produire, etc. Je pense que c'est un vrai casse-tête.
Non, c'est vrai que c'est pas si simple, surtout qu'on s'était un peu imposer quelques contraintes peut-être pas philosophique, mais en tout cas un petit peu éthique. On voulait que chaque auteur-autrice soit payé de la même façon. Donc ça a amené un standard de prix à la planche qui était celui des plus célèbres, mais qui donc, s'est reporté aussi sur les plus jeunes, les plus débutants. Ça, c'est on ne voulait pas que ce soit à la tête du client, qui est quelque chose de vraiment démocratique de ce point de vue-là. Au départ, on avait fait des calculs sur 250 pages, ça amenait déjà quelque chose d'extrêmement... Sans doute la BD la plus chère du monde, déjà sur ce canevas-là. Et puis, peu à peu, il y a eu d'autres envies, d'autres propositions, des choses auxquelles moi, je n'ai pas pu dire non. Donc on avait au début quelque chose d'assez cadré d'un point de vue financier, et puis en fait... Ça s'est un peu étendu. Donc, ça devenait de plus en plus cher à produire, de plus en plus risqué, de plus en plus obligé que ça fonctionne. Mais on s'est dit, on va le faire une fois tous les 30 ans, ce genre de truc-là. Donc, c'est pas le moment de mégoter. Donc, on a dit, on va faire un vrai risque pour tout le monde, mais au moins, on n'aura pas de regret à l'arrivée si ça se passe.
Oui, ça sera au moins un très bel objet édité. Ça sera un vrai travail. Alors, je ne sais pas si on peut parler chiffres. Tu m'avais dit qu'il y avait 80 000 exemplaires sortis au début, le premier tirage de cette version-là. Il y en a 4 500 de l'édition collector. C'est quoi qui change entre les deux, à part la couverture rigide?
Il y a un autre principe que j'avais un peu imposé, et on a beaucoup de discussions là-dessus, c'était qu'on me disait, ça c'est un produit, c'est un livre, hein, mais qui va s'adresser à un certain public, sans doute d'un certain âge, la nostalgie avant tout, ça j'en suis bien conscient, des gens qui ont d'abord les moyens et qui en plus aiment les beaux objets. Donc il faut le faire cartonner, vendu uniquement en librairie, comme un bel objet, c'est là qu'il va trouver le plus son public, c'est celle-là qui aura le plus de succès. Moi je tenais à ce qu'il soit aussi un numéro spécial d'un magazine. Et donc l'aspect broché était pour moi très important au niveau du message. C'est vrai que ça le démarquait un petit peu de la production classique de beaux livres du genre. Et je voulais aussi qu'il soit vendu en point presse, en kiosque, comme le journal à l'époque. Donc ça, c'est des choses qu'on a un peu distordu les habitudes du marché là-dessus, parce que je voulais que ce soit d'abord quelque chose de populaire et d'accessible, un vrai magazine. Donc effectivement, on a fait le prix le plus bas possible pour que ça tienne dans les calculs de compte, et on a voulu le diffuser de façon aussi un peu hors librairie. Dès lors, on nous a demandé quand même, les libraires, ils avaient raison, d'avoir un produit qui soit perçu comme un peu plus luxueux, et donc cartonné, avec un papier un peu plus joli, un plus beau carton, et même donc si, celui-là, il paraîtra en fin d'année.
Même si, franchement, on est déjà sur quelque chose de qualitatif, hein, faut pas croire. Le papier, c'est un papier qui est...
Le papier est excellent, c'est un bel offset avec une belle épaisseur pour qu'on ne voit pas à travers. Non, on a voulu qu'il soit vraiment...
C'est vraiment un bel objet. À la fin, il y a une sorte de... Tu sais quoi, c'est un tiré à part.
L'ex-libris, alors ça c'est... L'ex-libris, oui. Autre chose dans la cuisine interne des éditeurs, certains libraires, et je les comprends, trouvaient dommage qu'il y ait une concurrence de points presse, qu'il y a pu y avoir plus tôt, tout ça. Donc, on leur a dit aussi, parce que c'est un partenaire privilégié, les libraires, on va imprimer 80 000. Sur ces 80 000, il y en aura 40 000 qui seront avec un ex-libris, uniquement pour ce tirage-là, les 40 premiers 1 000 pour les librairies. Ils ont été mis en place 15 jours avant. Ensuite, 15 jours plus tard, les 20 000 ont été mis en place en point presse, sans l'ex-libris, donc ils avaient un petit désavantage entre guillemets, et il nous en restait 20 000 en stock pour les réassorts, et ils sont partis effectivement très vite. Donc après quelques jours, on n'avait plus de stock, donc là on a relancé une réimpression de 20 000 exemplaires. Donc il en reste encore quelques-uns en magasin, mais ça va commencer un peu à se raréfier.
D'accord. D'ailleurs, à ce propos, une fois qu'ils sont tous vendus, il y a un retirage possible ou pas?
Oui, donc on vient de relancer. Hein. Donc on avait imprimé 80 000. Là, on recevra bientôt à la fin du mois d'octobre les 20 000 suivants.
D'accord.
On sera en tout cas à 100 000.
Ma question, évidemment, là, parce que là, vous êtes dans la vie et la promo de cet objet, donc ça a un sens de suivre. S'il y a une demande, ça serait absurde de ne pas le rééditer. Mais une réédition dans 3 ans ou pas, ou là c'est voilà, on a sorti le truc comme un journal et il a sa durée de vie et après il n'existe plus.
Non, moi je pense qu'il est voué à durer. Moi je veux qu'il soit toujours trouvable.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il soit toujours disponible dans les catalogues et qu'on puisse le regarder, qu'on puisse l'acquérir si on veut, parce que c'est vrai que c'est un très bel hommage, c'est un bel objet. C'est original et oui, ça serait absurde qu'on puisse plus le trouver. Dans la même idée quand même, il n'y a pas... alors, un journal, un magazine, il y a toujours un peu de pub. Il y en a un petit peu là-dedans. Alors, qui ressemblent plus à du partenariat que réellement de la publicité, mais C'est sûr qu'il n'y a pas une publicité pour les shampoings ou un parfum, ça il n'y a pas. Mais il y a quand même un partenariat avec France Culture, je crois. Il y a avec le musée de la BD de Bruxelles. Il y a évidemment une page pour le Lombard.
En fait, c'est bien dit. On n'a pas voulu l'ouvrir à une régie publicitaire. On voulait que ça reste quand même un objet vraiment qualitatif de ce point de vue-là. Ouais. Et le but n'était pas tout à coup d'y mettre plein de pubs.
Puis ça vieillit beaucoup plus vite, les pubs, en plus.
Et puis ça vieillit effectivement beaucoup plus vite. Il y en a néanmoins 4 sur 400 pages. Donc, c'est vraiment presque symbolique, mais lié à nos partenaires. Donc, une pub de Moulinsart, du Centre Belge de la Bande Dessinée, de Visite Bruxelles, qui est la structure touristique de Bruxelles, qui ont été vraiment des partenaires. Donc, ça a été des pubs, en fait, non payantes. C'était une façon de mettre en avant vraiment...
Oui, là, d'ailleurs, c'est presque un public reportage, en fait.
Nos alliés, oui.
On est plus là-dessus. Mais c'est sympa. Puis, ça donne envie aux gens de venir visiter Bruxelles.
Visite Bruxelles, ça raconte les endroits importants de la BD à Bruxelles. Donc, effectivement, c'est une pub, mais c'est aussi informatif.
Oui, oui. Et puis, ça fait partie, quelque part, aussi de l'histoire du Lombard et de... Pourquoi Bruxelles reste une des capitales de la BD, en fait. Hein. C'est pas pour rien que le Lombard est ici et d'autres maisons d'édition. Une des choses dont on n'a pas parlé, c'est qu'évidemment, il y a plein de bandes dessinées. Mais il y a aussi, comme souvent d'ailleurs dans ce genre d'ouvrage, des parties rédactionnelles. Alors, une partie sur Tintin et le rapport à Tintin et la fétiche de Tintin. Donc, effectivement, il n'y a pas d'histoire, mais il y a quand même de la reproduction d'œuvres de Tintin dedans. Donc...
Tout à fait.
Ça a dû être un peu compliqué, avec effectivement l'importance du dessin d'Hergé, ça c'est assez intéressant, je ne sais plus qui l'a fait.
C'est écrit par Daniel Couvreur, qui est un journaliste du Soir, sur une idée qui est vraiment venue de Moulinsart, que j'ai trouvé très bonne. Il fallait du contenu Hergé contemporain, pas une même réédition de choses existantes, parce qu'il n'y a pas de nouveau dessin de Hergé. Ils ont trouvé un angle qui nous appelait Hergé influenceur. C'est qu'est-ce que Hergé apporte aux auteurs d'aujourd'hui. Donc, c'est comment faire un article contemporain, adapté, sur un sujet aussi classique et connu que Tintin et Hergé. Je trouve que là-dessus, ils ont fait vraiment un beau travail.
Non, et c'est très intéressant à lire. Il y a aussi, effectivement, la place des femmes dans le journal de Tintin, parce que c'était quand même... Alors, c'est le journal des jeunes de 7 à 77 ans, mais la cible... C'était les garçons. C'est marrant parce qu'on retrouve quelque part la même distinction qu'avec les mangas où il y a les shonen et les, je ne sais plus comment on appelle pour les...
Shoujo,
pour les,
oui.
Pour les filles. Donc il y a cette espèce de dichotomie qui existait, qui existe encore un peu d'ailleurs maintenant, même si Spirou n'est pas genré.
Moins
genré, on a quand même des magazines pour les filles, des magazines pour les garçons. Ce qui est un peu... Mais bon, ça, c'est un autre, c'est un autre débat. Mais il y a eu un certain nombre de femmes et héroïnes qui ont traversé l'histoire de Tintin. Donc, il y a tout un article là-dessus qui est assez intéressant. Et puis...
Non, c'est important, je pense, de se confronter à ce sujet-là. Les femmes dans Tintin, à savoir lectrices, mais surtout autrices, héroïnes, le constat est évident, il y en avait très peu. Et de nos jours, à une époque où la bande dessinée évolue vraiment, dans ce sens-là, très bien, on n'y est pas encore, mais il y a une féminisation extrêmement forte des autrices, des lectrices. Là, en 20 ans, ça a été vraiment un gros changement de paradigme, mais ça continue d'ailleurs dans le bon sens. Refaire un magazine comme ça, avec que des héros, que des auteurs, sans en parler, ça aurait été dommage. Donc on a voulu assumer cette espèce de handicap de manque qu'il y a eu pendant quelques décennies dans Tintin. Mais c'est aussi un constat dangereux, parce qu'à force de dire « dans Tintin, il n'y a pas de femme », on en oublie celle qui y était. Et donc, en parler, de dire « c'était une faiblesse », c'est aussi une façon de dire « par contre, n'oublions pas celle qui y était ». Redonnons-leur la parole, remettons-leur en avant. Et donc, ce dossier avait ce double intérêt, c'est-à-dire on parle de l'histoire, mais on remet aussi en avant parfois des figures oubliées.
Et c'est marrant d'ailleurs, il y a dans le journal des lecteurs, justement, une petite fille qui dit « Eh, mais moi aussi, ça m'amuse de lire Tintin et de jouer avec les... » En fait, elle prenait position sur une publicité pour des sortes de caplas, construire sa maison, qui était interdit aux filles. Et elle dit « Mais non, moi, j'adore ce truc-là. Et d'ailleurs, avec mes copines, on s'amuse à ça, etc.
Ah, » C'est intéressant, donc, ce courrier. Dans les années 60, les petites filles disaient « On a marre, en fait, de vos histoires de garçons. Et on sent que c'est dirigé que pour les garçons, que ça nous intéresse aussi. » Et en fait, c'était assez peu entendu, alors qu'il y avait clairement une demande à l'époque.
Bah, oui, oui.
Et quand un magazine paraissait, c'était un magazine vraiment très cliché sur comment être sage en classe, comment s'habiller de façon pudique. Enfin, c'est des choses quand même vraiment pas intéressantes, quoi. Ça, alors qu'il y avait une demande en fait du lectorat sans doute féminin à l'époque.
Alors, ce qui est intéressant aussi, le journal de Tintin a accompagné. Il y a aussi toute une écriture là-dessus sur les différents genres, on va dire littéraires, que ça soit le western, l'ASF, etc. Ça l'a accompagné de la même façon que un pilote, un journal pilote ou des choses dans ce genre-là. C'était très très large finalement, beaucoup plus que on va dire la culture. La grande culture.
En fait, ça c'était aussi une demande que j'avais, moi, c'était de retracer un peu l'existence des genres en BD dans Tintin au Lombard. Pendant un temps, les maisons d'édition sont un petit peu séparées sur des thématiques comme ça qu'il est, où on sentait qu'elles se spécialisaient un petit peu. Au début des années 2000, le Lombard faisait du thriller et de la BD jeunesse, en gros, plus Torgal et en deux autres. Soleil était l'éditeur qui faisait de la fantasy très bien. Il y avait de la SF chez Delcourt. Il y avait ce côté un peu séparé. Moi, j'ai voulu rappeler, avec une toute petite pointe d'immodestie, mais c'est important aussi de dire, en fait, à l'époque, on était déjà, nous, très généralistes. Et quand paraît aujourd'hui au Lombard une BD de fantasy ou de SF ou de western, façon de dire, en fait, ce n'est pas aberrant. C'était déjà là dans Tintin il y a 30 ans. Alors, il y a 40
D'accord.
ans.
D'accord, ben chouette.
Tintin était en soi très très précurseur, et plein de genres qui n'existaient pas ailleurs sont vraiment nés là-dedans.
Ben voilà, moi je pense qu'on a fait pas mal de tours. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose, une anecdote content déjà que ça fonctionne. Content parce que, pour pas cacher à nos éditeurs, je t'ai vu au Festival de la BD de Bruxelles. Le magazine venait de sortir et t'étais pas serein parce que est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va prendre ou pas. Et donc finalement, ça prend.
Oui, mais ça pourrait être à ce stade aujourd'hui la conclusion. J'espère qu'il va continuer à durer comme ça. Mais c'est vrai qu'on a eu on était très ambitieux pour cet anniversaire des 77 ans. On a voulu faire une grande soirée à Bruxelles avec tous nos auteurs du monde entier qu'on faisait venir, évidemment, on a offert tout ça. On a fait une très grande expo au Centre Belge de la Bande Dessinée sur notre histoire. En fait, on s'est dit, faisons l'anniversaire, on le fait une fois, on le fait bien. Ça aurait été embêtant que toutes ces démonstrations d'enthousiasme et de force s'accompagnent d'un insuccès en librairie. En fait, il fallait que ça marche sur les deux jambes. Donc pour moi, c'était important aussi que le public s'y retrouve et qu'on ne soit pas seulement dans l'entre-soi d'une nostalgie peut-être complètement dépassée. J'étais content de voir que le public réagissait aussi à nos envies, à nous.
Oui, alors moi, pour ma petite histoire, le journal de Tintin, je ne l'ai jamais lu.
T'es trop jeune, hein, c'est comme
non,
ça.
Non, non, on a à peu près le même âge.
Ah, c'est vrai.
Donc, mais simplement, c'était pas dans la... Alors Tintin, si, il y avait des albums de Tintin, mais le journal de Tintin, en tant qu'il n'y en avait pas. Les héros, il y a beaucoup de héros là-dedans que je ne connaissais pas. Alors évidemment, des Ricochet ou des Black et Mortimer, ceux-là, on les connaît parce que voilà, ils ont dépassé quelque part l'existence du journal. Mais beaucoup des héros là-dedans ne me parlent absolument pas. Il y en a plein où je suis allé voir sur Wikipédia leur histoire, qu'est-ce que ça racontait. Ne serait-ce parce que ça permet de comprendre aussi ce qu'a voulu réécrire l'auteur qui s'est réapproprié le personnage. Donc c'est vrai que moi, à la base, je ne suis pas forcément le public, en tout cas pas le public nostalgique, par rapport à ça, mais c'est tellement bien fait. Il y a, on parlait de typiquement Pompon et Modeste et Pompon. C'est des personnages que je connais pas du tout, mais l'histoire est tellement touchante que de toute façon elle devient universelle en fait. Et pour plein d'histoires là-dedans, elle fonctionne même si on connaît pas les personnages, elle fonctionne vraiment. Je pense que les auteurs ont joué justement avec ces personnages, ont fait des choses, ont et même, alors je sais plus, il y avait
Simon Dufleuve.
Simon Dufleuve, par exemple, un personnage que je connais absolument pas. Alors j'avais jamais entendu parler. La petite histoire a l'air de clore un truc, mais elle fonctionne même en elle-même, même si on connaît pas le personnage. Alors après, je suis allé voir c'est quoi le personnage, c'est quoi l'histoire du personnage, mais même toute seule, elle fonctionne en fait. Donc il y a plein, même si c'est pas des personnages qui vous parlent à la base. Vous pouvez y aller parce que c'est de la bonne BD, en fait.
Ah bah chouette, merci.
Voilà, non, mais c'est vraiment ça, et c'est chouette, et c'est... Et je crois que chaque auteur a essayé de... Non seulement de s'amuser, mais aussi à vraiment rendre hommage et faire quelque chose, essayer d'être à la hauteur quelque part de l'histoire du truc, quoi.
Vraiment.
Donc voilà. En tout cas, merci Gauthier.
Merci à toi.
On se retrouve d'ici un mois pour l'émission sur Radio Panique, et sinon on se retrouve un peu en stream quand j'ai le temps. J'ai aussi la promesse de Forster d'une
Forster
interview, ouais. Donc j'espère que je pourrai faire ça en novembre, décembre, on verra bien. Chez lui, j'espère faire ça chez lui, histoire de, comme ça, de faire ce genre de choses avec lui. J'ai commencé à avoir une discussion avec lui, ça avait l'air super intéressant. On a parlé d'Alan Moore, on a parlé de pop culture, on a parlé de plein de choses comme ça. Donc, j'espère que ça sera chouette.
Sûrement.
Et puis voilà, longue vie à Tintin, longue vie au Lombard.
Merci.
Et puis sinon, bientôt pour de nouvelles aventures.